Clé de la ville, une émission produite par Radio Immo et Le Figaro Immobilier. En partenariat avec Association Amepi, Arkéa Banque, Entreprises et Institutionnelles, Hero et Opinion System.
Merci à eux d'être avec nous. En direct de Nancy, vous avez vu, on est dans un écrin magnifique sur la place Stanislas, qui est une des plus belles places d'Europe. On est ravis d'être avec vous pour parcourir et découvrir un peu cette ville et essayer de la regarder de façon un peu différente. C'est la promesse que l'on vous fait. Toujours accompagné de mon fidèle complice pour ce Tour de France, je crois que c'est notre 15e étape, n'est-ce pas, Olivier Marin du Figaro?
Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Effectivement, 15e rendez-vous des Clés de la Ville, l'émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Immo, émission mensuelle. Tous les mois, nous nous déplaçons dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité et par extension son territoire, parler immobilier bien sûr, mais aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter. Voilà notre promesse, décrypter les tendances, dévoiler des projets, livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Alors Sylvain, après Nantes, après Lyon, après Paris, après Dijon, Caen, Toulouse, Annecy, Montpellier, Rennes, Deauville, Brest, Marseille et Bordeaux, je n'oublie pas La Rochelle, eh bien nous voilà à Nancy. Et au sommaire de l'émission, notre grand témoin, et nous sommes très heureux de l'avoir ici en plateau, c'est le maire de Nancy, Mathieu Klein. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment de nous recevoir dans ce
superbe
hôtel de ville. Merci beaucoup. Au sommaire de l'émission, nous aurons également parmi les invités Grégory Laurent de la société RIMAX et de l'AMEPI Nancy pour parler de l'immobilier ancien. Avec nous également pour parler, alors là, cette fois-ci du neuf, c'est Philippe Jung, directeur général pour de Mathieu Barre dans la rubrique Parlons Territoire d'Arkéa Banque et Territoire. La rénovation sera à l'honneur avec Romain Villain, directeur marketing chez Hero, et puis avec nous également Mickaël Butte, directeur des agences Butte Croisille Immobilier, qui interviendra dans la séquence Vos avis comptent d'Opinion System. Voilà un sacré programme pour cette émission, mais tout d'abord Sylvain, si je vous dis Nancy, l'édito, c'est à vous.
Les clés de la ville, l'édito.
Mathieu Klein, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, Nancy est née autour d'un château ducal qui a été établi au XIe siècle entre la forêt de haies et le bord marécageux de la Meurthe. Elle est, plus que d'autres villes, le fruit de la volonté des hommes et plus spécialement celle des princes. Résidence ducale, bourgade d'artisans, de bourgeois, elle était à l'écart des grandes voies naturelles de circulation et n'a grandi que par impulsion brusque, chacune d'elles lui apportant un influx nouveau. Le traité de Nuremberg fait de la Lorraine un état indépendant en 1542. Les trois évêchés n'y seront pas incorporés de sitôt puisque la véritable unité ne peut se faire. Nancy grandit donc en concurrent de la cité mosellane ancienne. Au XVIIIe siècle, la venue de Stanislas en Lorraine va transformer la ville de Nancy et marquer son territoire d'une empreinte digne des cités princières. À son arrivée dans la cité ducale en 1737, Stanislas Leszinski, né en 1677 et décédé en 1766, découvre une ville divisée en deux ensembles urbains distincts, séparés par un front bastionné de fossés et une esplanade. Au nord de la ville vieille, médiévale, à la forme concentrique magnifique, où siège le palais ducal. Au sud, la ville neuve, renaissance, aux rues droites et parallèles, voulue par Charles III, né en 1543, décédé en 1608, au XVIIe siècle. Il a l'ambition d'élever une place en l'honneur du roi de France, Louis XV, son gendre, qui deviendra le souverain des Lorrains à la mort de Stanislas. Élu la quatrième plus belle place du monde, elle fait la réputation de Nancy, même en dehors des frontières de la France. La place Stanislas présente toutefois un inconvénient. On vient la voir et on s'en va, parce qu'il y a quand même une ville autour. On peut donc louer Olivier, bien évidemment, Olivier, pardon, on peut louer Mathieu Klein. Voilà, j'allais dire Olivier, l'ambition de créer effectivement ce plus grand centre thermal de l'Est avec 17 000 curistes par an, c'est la preuve que vous ne craignez pas de reprendre le flambeau de vos prédécesseurs et que vous avez le souci de sédentariser vos visiteurs. Voilà, l'idée, c'est qu'ils restent un peu plus longtemps que prévu. Dans la lignée de Stanislas le bâtisseur, êtes-vous d'ailleurs un bâtisseur, monsieur le maire, on va vous poser les questions. Vous fourmiez deux projets, nouvelles pistes cyclables, nouveau centre commercial, nouveau trolleybus électrique, nouvelle caserne des pompiers. De nombreux chantiers vont changer l'image de Nancy et de sa métropole. C'est votre projet. Rien que la semaine dernière, le conseil municipal a acté l'extension de la piétonnisation du centre-ville. Alors, bien évidemment, 17 ans après la piétonnisation de la place Stanislas, vous faites franchir une nouvelle étape à la ville. Quelle est votre philosophie de ces initiatives? Vous nous expliquerez tout cela, bien sûr, dans un instant, car il y a du sens à Nancy. Je dirais même plus de la spiritualité, si je peux me permettre. En témoigne le parcours incroyable de Charles de Foucauld, canonisé dimanche dernier par le pape François. Il a 12 ans lorsque la France perd l'Alsace, obligeant sa famille originaire de Strasbourg à déménager à Nancy. Lui qui avait perdu sa mère à 5 ans, son père à 6 ans. C'est une autre façon d'être orphelin. Jeune officier de Saint-Cyr, il apprend le départ de son régiment pour l'Algérie. Là, il démontre un don inné du commandement sans faille, une proximité avec ses hommes, du courage et de l'audace s'il en faut. L'officier cavalerie qui a eu avec le maréchal Lyautey des échanges militaires mais aussi spirituels est entré ensuite dans les ordres pour se consacrer à la religion catholique. Il y a beaucoup d'églises d'ailleurs à Nancy, notamment la basilique Sainte-Èvre. Alors on dit Èvre ou Èpre ? Èvre, voilà, Èvre. Le plus haut édifice religieux de la cité avec ses 87 mètres de hauteur, une magnifique basilique a été érigée dans la seconde moitié du 19e siècle dans un style néo-gothique au cœur de la vieille ville de Nancy. On vous a fait une petite surprise, monsieur le maire. Je vous propose une petite balade bucolique dans votre ville. Un reportage réalisé et tourné par Fabienne Lissac et Alexandre Burkhardt. Je vous propose qu'on le regarde tout de suite.
Ancienne capitale du duché de Lorraine, Nancy représente un parfait mélange entre la vieille ville, la ville neuve et le XXIe siècle. En 1598, le duc de Lorraine, Charles III, réalise le renforcement défensif de la ville vieille afin de protéger l'entrée nord de la ville et la porte de la Craffe. Il ordonne la construction de nouveaux bastions. Il faut dire qu'il y a toujours eu des bijoux à protéger ici. L'un des principaux joyaux de la Lorraine, par exemple, c'est la place Stanislas, le fruit du désir du duc Stanislas Leszczynski. Reliant le quartier de la vieille ville et la ville neuve de Nancy, la place construite en 1752 impressionne ceux qui la traversent. Avec ses fontaines, ses pavés, ce magnifique arc de triomphe bâti en l'honneur de Louis XV qui relie à la place de la Carrière et à la place d'Alliance, porte le nom d'Emmanuel Héré, l'architecte de la place Stanislas. Elle forme un ensemble vraiment fastueux qui fait d'elle une composante du patrimoine de l'UNESCO. La place Stanislas a été désignée monument préféré des Français. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée au XVIIIe. À la charnière du XXe, Nancy devient la capitale française de l'art nouveau. La Villa Majorelle en est l'un des emblèmes. En 1870, l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne constitue un contexte historique particulier pour favoriser son émergence. Nancy accueille une immigration composée d'artistes, d'industriels, d'une main-d'œuvre qualifiée. Parmi les artistes les plus connus, Émile Gallet, Louis Majorelle, Antonin Daume, Victor Prouvé, Jacques Gruber, Eugène Vallin participent à cette rénovation artistique. Nancy concentre encore plus d'une centaine de constructions. Ses banques, boutiques, chambres de commerce, immeubles ou villas privées témoignent de cette riche et libre période artistique.
Ah, je dirais que ça. Son premier caractère, c'est d'être capitale. Elle a été capitale à la Renaissance, on a fait la ville, ce qu'on appelle la ville neuve, capitale au 18e, avec l'ensemble des constructions liées à Stanislas, qui a construit de nombreux immeubles, qui étaient destinés à accueillir une noblesse. Donc capitale par le type de public reçu. Et puis, en début du 20e siècle, la fin du 19e, début du 20e, Nancy va être capitale industrielle de l'Est de la France. Alors on ne va plus construire pour des nobles, mais on va construire pour une classe moyenne de fonctionnaires qui reviennent des départements qui sont rattachés à l'Allemagne, donc de nombreux optants. Donc on a toute une population de qualité qui vient et qui demande bien sûr des logements.
Nancy se réinvente. Le maire a repris le flambeau de l'un de ses prédécesseurs afin que les touristes viennent voir la place Stanislas, mais ne partent pas tout de suite.
Ce projet, il est extraordinaire parce qu'il est issu d'une volonté d'André Rossino, qui était un ancien médecin et qui, en tant que maire qui a marqué l'histoire de Nancy, a toujours voulu faire de cette belle endormie, qui était les thermes de Nancy, qui a été créée par Louis Lanternier en 1909 lors des expositions universelles. Et il a voulu réveiller cette belle endormie pour en faire les thermes d'aujourd'hui, c'est-à-dire faire un lieu pluridisciplinaire autour de l'eau, qui va comprendre à la fois une partie médicale, qui sera reliée aux grands hôpitaux de Nancy, une partie bien-être, qui permettra d'accueillir en fait des touristes de France, d'Allemagne. Alors c'est des thermes en fait qui sont les plus grandes de l'Est, puisque ça pourra à terme accueillir 15 000 curistes. Mais cette cité pluridisciplinaire autour de l'eau ne sera pas uniquement des thermes, puisqu'il y aura un centre aquatique pour les familles. Ce qui est très important, parce que ça va former un ensemble de 30 000 m² face à un jardin qui fait plus, lui, 70 000 m². Donc à terme, ça sera similaire au terme de Caracalla. Ça va devenir une destination grâce à la place Stanislas, mais les gens vont pouvoir rester parce qu'ils vont pouvoir utiliser un lieu dans un grand parc qui sera à la fois ludique, sportif, où on pourra avoir des séquences de bien-être. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est de pouvoir réaliser un dôme en 2020, puisque c'est une forme classique qui n'est plus, on va dire, pratiquée dans les bâtiments contemporains. Et ce qui est très intéressant, c'est donc c'est un bâtiment qui a plus de 21 mètres de hauteur et qui va surplomber un bassin pour les thermalistes. Ce que je voulais faire, c'était profiter du dôme pour avoir des arrivées de lumière extrêmement généreuses. Et je viens, on va dire, tamiser la qualité de la lumière par une sorte de brise-soleil qui sera en polycarbonate, un produit verrier, qui permettra à la fois de se protéger des rayonnements directs, mais de venir créer une sorte d'opalescence en fait extrêmement tamisée et qualitative sur l'eau. Je propose une architecture plus sombre avec une sorte de grand carroyage noir, plus horizontal. Et ce qui était important, c'était de trouver une consonance avec ces grandes colonnades qui créent une épaisseur dans la façade. Et je viens révéler cette épaisseur par des brises soleil en fait, qui ondulent et qui créent en fait double action positive, une sorte d'analogie sur la qualité d'épaisseur de ces bâtiments anciens par rapport à un bâtiment contemporain. Mais je viens profiter de la disposition de ces brises soleil pour qualifier la lumière qui viendra dans notamment la partie hôtelière pour les curistes.
Après avoir vu la place aux portes d'or, partons faire un petit circuit, mais il faut prendre des forces avant. Je vous propose de goûter des petits macarons à la Maison des Sœurs. C'est la pâtisserie la plus vieille d'Europe où on peut en déguster. À l'heure du déjeuner, c'est à la fameuse brasserie L'Excelsior que vous découvrirez de beaux exemples d'hôtels particuliers, d'immeubles Art Nouveau. Nancy réconcilie la pierre et la nature sur les hauteurs de la ville. Vous pouvez découvrir un parc riche en variétés de pommiers, de poiriers anciens qui s'étend sur 25 000 m². Il offre l'un des panoramas les plus époustouflants sur Nancy jusqu'à la ligne bleue des Vosges.
Applaudissements pour Fabienne Lissac et Alexandre Burkhardt, ici présent à la régie. Bravo Alexandre. Voilà, un reportage un peu bucolique qu'on a voulu aussi pour enchanter. C'est un peu la promesse que nous avons dans chaque ville. Est-ce que vous serez, monsieur le maire, l'homme des nouvelles thermes de Caracalla à Nancy ?
J'en accepte volontiers l'augure, mais il faut d'abord effectivement rendre à César ce qui lui appartient. Anne Demian, ce que nous venons d'entendre a rappelé que d'abord, il y a une intuition politique, citoyenne, sociale, je dirais même, de la part d'André Rossino, lorsqu'il décide de redonner finalement au terme la suite de leur histoire interrompue en 1913, voilà, par la guerre qui était imminente, et puis ensuite la vie du XXe siècle n'a jamais permis finalement à cette source thermale nancéenne d'être exploitée. Donc il a d'abord fallu vérifier que l'eau thermale était toujours parée des mêmes vertus que celles qu'Édouard Lanternier avait identifiées au début du XXe siècle. Ça a été le pari d'André Rossino. Et ensuite, de proposer aussi une projection urbaine. Parce qu'à partir de d'une ressource naturelle inexploitée qui, effectivement, est riche aujourd'hui de la capacité qu'elle va avoir de contribuer à la guérison de milliers de personnes souffrant chaque année, eh bien, il faut aussi avoir un projet urbain. Et le fait de faire de Nancy la première métropole thermale française était un pari audacieux qui me semble aujourd'hui en passe d'être réalisé. Bon, il a fallu franchir quelques haies, encore une récemment sur le plan juridique, mais on va pas épiloguer sur ce sujet-là aujourd'hui. Et puis, vous parliez de vision bucolique de Nancy. Je rappelle souvent aux visiteurs ou lorsque je suis à l'extérieur que Nancy est une ville dans la forêt. Nous sommes au cœur du massif de la forêt de haies qui est, et on l'oublie, le troisième massif forestier français après Rambouillet et Fontainebleau. Donc le lien entre la nature et la ville est ici un lien qui est d'origine, puisque, comme vous l'avez rappelé, Nancy est née il y a un millier d'années au milieu de nulle part, par la volonté humaine, dans un marécage, dans une cuvette, qui n'aurait jamais dû voir grandir une cité humaine.
Alors justement, vous l'évoquiez, monsieur le maire, à propos de projets urbains, à propos d'urbanisme. L'urbanisme, c'est la mobilité, les transports, la circulation, c'est tendre à la fluidité dans les déplacements, c'est aussi émettre moins de carbone. Alors vous avez mené un projet de piétonnisation à Nancy, tout d'abord une phase d'expérimentation et puis de concertation avec les citoyens, ça concerne le cœur de ville. Dossier validé, c'est l'actualité lors de votre conseil municipal, c'était le 9 mai dernier. L'extension de la piétonnisation en centre-ville se fera par étapes pour tendre vers une ville plus respirable, plus attractive. Quelle sera la marche à suivre ?
Mais là aussi, il s'agit de reprendre. On est sur la place Stanislas. Vous l'avez rappelé, évidemment, le caractère emblématique pour les Nancéennes et les Nancéens. La place Stanislas, c'est le dernier grand geste urbain d'apaisement en 2005, il y a 17 ans. André Rossineau, encore lui, avait fait le pari de supprimer une place dédiée à la voiture et au parking. Est-ce que vous imaginez qu'il y a 20 ans encore ici, vous pouviez vous stationner et il y a 25 ou 30 ans, c'était même quasiment entièrement recouvert de véhicules. Et lorsqu'on observe la place vue des balcons de l'hôtel de ville ou quand on est sur la place, ça paraît aujourd'hui totalement surréaliste. Et pourtant, c'était une perspective assez récente. Donc, il me semble qu'il y a une attente forte aujourd'hui que nos villes évoluent. Et pour Nancy, c'est reprendre cette histoire de la ville vieille jusqu'à la ville de Charles III, eh bien, il faut donc mettre la place Stanislas au cœur d'un ensemble piéton. Et il démarrera donc Porte de la Craff en ville vieille pour se terminer rue du Pont-Moujat à quelques encablures du marché central dans la ville neuve de Charles III pour redonner aujourd'hui à cette réconciliation des deux villes que Stanislas Leszinski a entrepris avec la place Stanislas, eh bien, sa cohérence. Cheminer paisiblement, c'est aussi, je crois, en tout cas c'est ma conviction, donner des perspectives de redynamisation en termes commercial, festif, culturel, à l'ensemble des quartiers concernés.
Et ça, vous voulez lancer un observatoire, justement, notamment avec les commerçants. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Nancy, ça a été facilement accepté, voulu. Il y a eu des débats chauds là-dessus sur ce.
Mais il y en a encore.
Ça continue, donc.
Bien sûr. Nous sommes à l'aube d'une transformation.
Comment les commerçants ont accueilli l'idée, voilà.
Les commerçants ont accueilli l'idée de façon variée, avec pour certains, et ça dépend aussi de la nature de leur activité commerciale. Bien sûr, pour les commerces de bouche, la piétonnisation, c'est une perspective qui apparaît d'emblée comme une perspective séduisante. Pour d'autres commerces, pour lesquels les habitudes aujourd'hui de consommation sont encore beaucoup liées à l'automobile, des questions, parfois des craintes, parfois des contestations. Mais je n'attendais pas autre chose dans la mesure où il n'est pas possible d'opérer des transformations urbaines de cette ampleur sans évidemment provoquer un débat. D'où la raison d'un observatoire, parce qu'il faut accompagner, expliquer, prendre le temps. Nous l'avons fixé le début de la piétonnisation au 15 septembre. Et puis c'est aussi une question de transformation de la ville. Il ne s'agit pas juste de dire j'arrête la circulation automobile de transit. Il faut réaménager les places, réaménager les espaces, végétaliser, montrer, démontrer que la piétonnisation sera un atout en termes de qualité de vie et en termes d'attractivité économique.
Alors, On ne va pas faire de politique axée, mais vous avez quand même largement remporté les élections lors du scrutin municipal. Après 73 ans quand même, gouverné par la droite et le centre, c'est pas neutre, hein, c'est pas neutre du tout. Vous avez abordé notamment, et ça on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'articles qui en ont parlé, vous avez abordé les questions de logement et d'immobilier dans votre ville, hein, et dans la métropole. Bon, je vais vous poser directement la question, est-ce que vous allez vous inscrire dans une continuité des politiques précédentes, des politiques publiques? Concrètement, est-ce que vous, Mathieu Klein, serez, à l'instar de vos prédécesseurs, un maire bâtisseur? Et comment, aujourd'hui, vous envisagez le logement de vos administrés sur Nancy et la métropole?
Vous savez, dans toutes les politiques publiques, il ne peut jamais y avoir tout blanc ou tout noir. Et une alternance politique, c'est l'expression du souhait des habitants, mais il ne s'agit en aucun cas, j'ai fait référence à Nancy Thermale et à la piétonnisation de la place Stanislas par exemple, il ne s'agit en aucun cas de dire qu'on va tout arrêter et tout faire différemment. Il y a des dynamiques urbaines qui sont là. Alors pour certaines, j'ai souhaité les réinterroger, les modifier. Je pense à la ZAC Nancy Grand Cœur, tout le quartier autour de la gare, pour ceux qui se connaissent un peu moins bien Nancy, par exemple, ou encore récemment en Conseil métropolitain, la semaine dernière, les évolutions sur le secteur Austrasie, le secteur des rives de Meurthe, où là aussi nous avons, en fait, dans ces deux ZAC-là, un urbanisme extrêmement dense, extrêmement minéral, qui laissait insuffisamment de place à mon goût, et en tout cas au-delà de mon propre goût, à l'intérêt des habitants, notamment en termes d'espace public, de végétalisation. Donc voilà des évolutions. Après, bâtir, oui, parce qu'une ville qui ne se renouvelle pas, une ville qui ne grandit pas, une ville qui ne permet pas d'attirer de nouveaux habitants est une ville qui meurt. Donc nous sommes dans une dynamique forte. D'ailleurs, l'évolution du nombre de permis de construire sur la ville en 2020 et en 2021 en atteste. Nous avons d'ailleurs été soutenus assez fortement par l'État en la matière. Et puis, il faut aussi rénover. Vous l'avez évoqué en filigrane dans vos propos. Il s'agit aujourd'hui sur un ensemble qui, comme dans beaucoup de villes de France, est concerné par de l'habitat privé qui est en plus ou moins bon état, d'avoir une ambition caractérisée. Je pense notamment à un secteur en devenir que nous appelons secteur Nancy René de Bonsecours, Saint-Pierre René de Bonsecours, pardon, qui est le secteur des hôpitaux urbains, puisqu'il y a un des grands projets pour l'avenir de Nancy, c'est l'arrivée sur le plateau de Brabois de l'ensemble des fonctions du CHRU qui sont aujourd'hui réparties sur plusieurs espaces, 7 hôpitaux urbains qui vont progressivement, entre aujourd'hui et 2032, intégrer un nouvel hôpital. Et pour le maire que je suis, c'est l'ensemble d'un quartier, le quartier des hôpitaux urbains, hôpital central, hôpital Saint-Julien, maternité, faculté de pharmacie, faculté d'odontologie, qui vont devoir connaître un nouveau destin. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons une OPA, pour déjà sur ce quartier, dès aujourd'hui, une OPA RU, travailler sur la rénovation, notamment thermique, du patrimoine privé existant.
Alors, justement, vous voulez transformer la ville, aménager des quartiers, je crois qu'il est question de Saint-Pierre-René II, le quartier du Plateau qui va se renforcer. Ça veut dire aussi des grands travaux, ça veut dire des nuisances sonores, ça veut dire de la pollution avec des chantiers, la rotation des camions. Comment on accompagne, comment accompagner ces changements sans se mettre à dos des riverains?
Alors, d'abord, la première des choses, c'est le dialogue, la concertation, y compris laisser parfois le choix aux habitants. Nous avons lancé un budget participatif doté d'1 million d'euros par an tout de même. Donc on n'est pas uniquement dans la cosmétique permettant aux habitants de conduire eux-mêmes et de décider eux-mêmes de projets d'aménagement urbain. Et puis au-delà de ce budget participatif, ces opérations-là, elles font l'objet d'abord d'un travail préalable. Je pourrais citer à cet endroit-là l'opération sur le quartier Alstom, entre Meurthe et Canal, l'ancien Nancy industriel qui va voir arriver prochainement le palais de justice de Nancy, la cité judiciaire qui va y déménager. Nous allons reconstituer tout un quartier.
Ça, c'est le projet, mais vous ne sentez pas, et on le voit dans les différentes villes où on va, de plus en plus d'hostilité par rapport à des projets d'aménagement, d'urbanisme, quand on parle beaucoup d'écologie, de planification écologique.
Mais
les deux doivent
marcher ensemble.
Vos collègues de grandes métropoles nous disent très clairement que le niveau d'acceptabilité des riverains n'est jamais arrivé à un point de désaccord historiquement. Est-ce que vous partagez cette même idée ou est-ce que voilà, vous êtes plus nuancé?
À ce stade, ce que je constate, c'est que les projets urbains qui ont laissé trop peu de place aux mobilités douces et actives, à la végétalisation et au traitement des espaces publics étaient des projets rejetés. Nancy Grand Cœur ou l'évolution d'Austrasie. Rejetés ou en tout cas créant une certaine forme d'insatisfaction à minima. Donc les projets que nous lançons tiennent compte de cette réalité-là. Le projet, par exemple, Alstom, que j'évoquais à l'instant, c'est un quartier que nous appelons le quartier écologique et solidaire. C'est des formes d'habitat moins denses, avec une logique de formes urbaines aussi plus modestes, qui n'exclut pas dans d'autres secteurs d'avoir des formes beaucoup plus spectaculaires et beaucoup plus importantes. Il faut dialoguer, et bien sûr que les chantiers, bien sûr que les travaux, bien sûr que les nuisances sont au rendez-vous lorsque vous transformez la réalité urbaine. Mais c'est la réalité aussi de toutes les grandes transformations. Il ne peut pas y avoir d'évolution forte s'il n'y a pas à un moment un engagement important et une période de transition pendant laquelle, oui, il faut être encore plus dans la pédagogie et l'accompagnement parce que les difficultés sont au rendez-vous. Mais il me semble que le jeu en vaut très largement la chandelle parce que l'évolution urbaine de nos villes aujourd'hui, eh bien, si nous voulons continuer à les faire grandir, à ne pas les voir se transformer en ville pour ce qui nous concerne d'étudiants et de personnes de plus de 65 ans, parce que c'est un peu le risque des grandes métropoles étudiantes, c'est que toute la population active cherche des solutions ailleurs. Donc il faut pouvoir loger les familles, il faut pouvoir proposer des solutions de parcours résidentiel et notamment de progression à mesure que vous avancez dans la vie active, dans votre vie familiale, sur le parcours résidentiel de solutions locatives, locatives sociales, d'accession à la propriété. Tout ça pour au bénéfice des habitants, des actifs, des travailleurs, parce que c'est bien ça l'idée qu'on se fait de la ville. Donc oui, il faut pour ça changer un certain nombre de programmes, faire évoluer des quartiers pour qu'il y ait de la place pour tout le monde.
Alors justement, en termes de démographie, est-ce que la démographie de la ville de Nancy, elle est plutôt positive, elle est stagnante?
Elle est stable. Nancy est une ville qui se maintient au-dessus des 100 000 habitants, autour de 105, 106 000 habitants. La métropole du Grand Nancy, elle est autour de 265 000 habitants. C'est la plus petite
avec
métropole.
Communes, 20 communes.
C'est une métropole très dense. Mm-hmm. Parce qu'elle n'a pas d'interland rural en son sein, à la différence de beaucoup d'autres métropoles. Donc nous sommes sur un bassin de vie avec 13 EPCI, 13 intercommunalités dans le sud de la Meurthe-et-Moselle qui travaillent ensemble, dont la métropole du Grand Nancy, bien sûr. Mais la métropole du Grand Nancy doit relever ce défi d'être dans le Grand Est, parce que dans le Grand Est, nous ne sommes ni en Occitanie, ni en Loire-Atlantique, ni à Bordeaux, ni à Lyon. Il y a aujourd'hui encore un regard, parfois un petit peu méconnaissant, de la réalité de la vie ici. Donc il faut attirer. Nous avons une chance, un atout majeur, c'est 50 000 étudiants. Vous savez, une métropole de 265 000 habitants, dont 50 000 étudiants, c'est une chance qu'il nous faut transformer. Parce que ces étudiants-là, lorsqu'ils sont lorrains, ils peuvent avoir envie de rester, mais pas forcément. Et lorsqu'ils viennent d'ailleurs pour leurs études à Nancy, ils repartent souvent à l'issue de leur parcours académique. Alors que nous sommes une place forte en termes de santé, de numérique et de matériaux. Dans quelques jours, vous succéderont ici, dans ces grands salons de l'Hôtel de Ville, la 6e université d'été mondiale des matériaux, le World Materials Forum, qui attire des chefs d'entreprise et des dirigeants économiques du monde entier. Eh bien, il faut que ces atouts-là ils puissent se traduire dans la capacité à trouver des emplois qualifiés supérieurs et un emploi pour son conjoint, des activités, des études pour ses enfants et un logement et un cadre de vie agréable.
Un logement, un cadre de vie, on imagine aussi, bien sûr, pour les étudiants, vous le disiez, hein, 50 000, très nombreux, il y a une pression et j'imagine il y a un défi de pouvoir d'essayer de loger tout le monde. Une question, de nombreuses villes s'y mettent, après Paris, Lille, Lyon, Villeurbanne, un dispositif permet de limiter les abus pour certains ou au contraire de pénaliser les locataires pour d'autres et de favoriser, on peut le dire ici, Airbnb, en sortant de la location classique. Est-ce que l'encadrement des loyers, c'est un dispositif qui est envisageable à Nancy?
Et y êtes-vous favorable?
Sur le principe, j'y suis tout à fait favorable lorsqu'il est nécessaire. À l'heure où nous parlons, il n'apparaît pas comme une mesure nécessaire à la bonne fluidité et à la bonne dynamique du marché immobilier. Donc je n'envisage pas de le mettre en œuvre sur le territoire de la métropole du Grand Nancy, mais je comprends parfaitement qu'à Lille ou à Paris, le contexte de la tension n'est absolument pas le même. Nous avons plutôt une bonne dynamique. On a un taux de vacances qui est élevé, une dynamique donc de la production qui est forte. Vous avez donc aujourd'hui un taux de rentabilité.
Vous avez évoqué la question du neuf, la question des autorisations d'urbanisme. À l'heure aujourd'hui où on est dans la ZAN zéro artificialisation nette, effectivement, vous l'avez évoqué. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on l'évoque de façon beaucoup plus concrète avec une séquence qui s'appelle Parlons territoire, où je vous propose, monsieur le maire, justement, faire venir sur le plateau Philippe Jung, le directeur général de Mathieu Barre, pour évoquer justement le problème du neuf. C'est tout de suite.
Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkéa Banque.
Quel plaisir d'être ici, c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, on a avec notre groupe média de beaux projets avec vous, j'espère effectivement, parce que notamment, il y a beaucoup de choses à faire. Je lance aussi un appel aux investisseurs, mais aussi aux sociétés d'événements événementiels, parce que vous avez créé un dispositif événementiel extraordinaire. Et je vais vous dire, c'est top, pourquoi ? Parce que vous êtes à proximité de tout, monsieur le maire. Et donc, j'allais dire que si, à un moment donné, vous voulez déconcentrer ce qui se fait à Paris, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, d'un point de vue économique, c'est beaucoup moins cher, finalement, de faire vos événements ici, je vous le dis. Et en même temps, on a la même praticité en termes hôtellerie, restauration, accueil, et vous avez même une agence à la mairie qui prend en charge aussi la gestion de la billetterie et de l'accueil, et je trouve ça remarquable. On va parler de neuf, Olivier Marin, c'est la question du jour.
Oui, alors le neuf avec notre invité pour la rubrique Parlons territoire avec Arkéa. Bienvenue donc Philippe Jung, directeur immobilier chez De Mathieu Barre, acteur majeur de la construction et de l'immobilier. Alors quand on évoque l'immobilier neuf au sens large et notamment de résidentiel, on évoque souvent les mots de pénurie, de ralentissement, de baisse, de chute de permis de construire, de mise en chantier.
De crise du neuf.
Et quand on regarde certaines situations locales, il y a parfois des secteurs où le neuf fonctionne bien, comme c'est le cas notamment à Rennes, où nous étions. Comment se positionne Nancy ? Est-ce un territoire qui est à la fois prospère et qui répond à la demande en matière de production de nouveaux logements ?
Nancy est une ville où le marché du logement est globalement assez équilibré. Il y a une production qui n'est pas gigantesque, mais qui est assez régulière, qui est à peu près satisfaisante. Elle pourrait être effectivement un petit peu plus élevée. Monsieur le maire, vous parliez de 1000 logements par an. On est aujourd'hui un peu en dessous et probablement le marché est capable d'absorber 1000 logements par an.
Et pourquoi, Philippe, pardonnez-moi, pourquoi on est en dessous ?
Parce que l'offre, elle est faite de deux manières. Elle est faite d'une part sur des grandes zones d'aménagement, donc là où l'impact de la ville est prépondérant, et puis elle est faite aussi en secteur diffus, donc en fonction de restructuration locale. Bon, le marché, on va dire l'offre s'est un petit peu réduite. Il y a eu effectivement, monsieur le maire en parlait, la remise en cause de Nancy Grand Cœur et la restructuration, mais a priori ça va repartir très, très rapidement, donc il y a ralenti peut-être un petit peu l'offre. Et puis il y a de nouvelles zones qui vont arriver, effectivement, ce secteur industriel autour d'Alstom qui peut... amener une nouvelle offre dans les... Dans
mais
les
à, l'instar de, à l'instar de vos collègues dans d'autres régions, vous avez avec la mairie des relations qui sont harmonieuses, consensuelles. Est-ce que les autorisations d'urbanisme sortent ? Est-ce que, concrètement, est-ce que les permis de construire sont instruits ? Est-ce que vous avez des remarques à faire là-dessus ? Comme c'est le cas dans certaines villes dans lesquelles certains de vos confrères... c'est le moins qu'on puisse dire, n'était pas tout à fait à la noce.
Ouais, y a effectivement beaucoup de villes, beaucoup de métropoles où c'est très compliqué, où il y a une résistance, une hostilité au fait de bâtir, et où c'est compliqué. Honnêtement, c'est pas le cas de Nancy. C'est pas parce que Mathieu Klein est à côté de moi que je dis ça, mais il y a une exigence. On sent que quand on présente un projet, on a un projet en ce moment en cours d'instruction, il y a des exigences, on échange, on définit, il y a une forme de co-construction, mais on est dans un mode de fonctionnement qui est raisonnable. Et en plus, j'ajouterais que du côté de la population, il y a peu par rapport à d'autres métropoles, il y a peu d'hostilité à la construction, y compris quand on est en secteur diffus.
Puma. Vous n'avez pas le phénomène Puma, projet utile, mais ailleurs.
Ailleurs, ça, voilà. Non, pas non, pas trop à Nancy. Et il y a assez peu de recours sur les permis, statistiquement moins que dans d'autres villes. Donc, ce qui prouve qu'il y a une certaine acceptabilité et donc globalement le marché est assez fluide avec.
Et sur le prix, on évoque 3 600 € en moyenne par mètre carré dans le neuf. Oui. À Nancy, entre la hausse du coût de construction, la hausse du prix du foncier, bon, au final, comment produire du logement neuf abordable ?
C'est assez compliqué, c'est vrai, parce que le marché. Alors, on va dire que c'est un élément positif, c'est-à-dire que le marché du logement à Nancy reste assez sage en prix. On va dans une fourchette de 3 100 € à 4 100, 4 200. Bon, voilà. Donc, on est dans une fourchette assez réduite et il y a peu de métropoles où on n'a pas des programmes à 5 000 ou 6 000 € dans certains quartiers. Donc, ça, c'est un élément, on va dire, positif pour la fluidité du marché, pour la solvabilité des acquéreurs, etc. Mais En parallèle, effectivement, aujourd'hui, on est face à une hausse des coûts, bon, je vais répéter ce que disent tous mes confrères, mais qui est due, bon, d'une part, à l'évolution nécessaire et souhaitable de la réglementation en matière environnementale, etc. Et puis également à une hausse, on va dire, conjoncturelle, hein, liée, entre autres, à la situation géopolitique du moment, qu'on ne maîtrise pas. Et donc, effectivement, si vous voulez, je pense que sortir une opération à 3 100 € aujourd'hui, ça devient à peu près mission impossible, même si on vous donne le terrain, ou très limite si on vous donne le terrain. Et à condition que vous puissiez faire du stationnement en extérieur et pas en sous-sol. Voilà, c'est donc.
Après, il faut suivre au niveau du pouvoir d'achat. Voilà. Mais quelle est la part à Nancy de répartition entre les investisseurs dans le neuf et puis les primo-accédants ou ceux qui veulent acquérir un bien neuf ?
Vous l'avez dit tout à l'heure, Nancy est une ville, quand même, beaucoup une ville de locataires. Hein. Il y a à peu près près de 70% de locataires dans la ville. Avec dans ce marché locatif beaucoup de patrimoine privé et pas mal de patrimoine privé ancien, c'est peut-être la cause du taux de vacance un peu élevé que monsieur le maire citait. Alors, probablement des propriétaires qui n'ont pas vraiment les moyens aussi de rénover leur logement et de les entretenir. Donc il ne faut pas trop se fier à ce taux de vacance qui est un paramètre intéressant, mais qui ne traduit pas un marché très, très offreur, en fait. Donc, il y a une part d'investisseurs assez significative, mais il y a aussi une part d'occupants fortes. On est, comme dans beaucoup de métropoles régionales, on est autour de 60% d'investisseurs, 40% d'occupants. Bon, ça peut dépendre.
Investisseurs en mode Pinel
Oui, en général en mode Pinel, puisque d'accord. La commune est éligible au B1. Et en fait, l'investissement Pinel est assez bien positionné par rapport au marché, puisque le loyer moyen du marché, il est autour de 11,50 €. Et le loyer Pinel en B1, il est de 10,50 €. Donc on est 10% en dessous du marché quand on fait du Pinel, donc c'est tout à fait cohérent et efficace, et on a des taux d'écoulement qui sont assez bons. Nous, on a en ce moment deux projets en commercialisation et en chantier sur la ville, et puis deux autres en projet, qui s'écoulent tout à fait de manière satisfaisante.
Voilà, applaudissements pour Philippe Jung, directeur général de Mathieu Bar. Merci beaucoup. Je voudrais aussi qu'on applaudisse chaleureusement le maire de Nancy, Mathieu Klein, qui nous a accueillis ici, parce que vous devez partir. Et on va continuer l'émission avec nos autres séquences, nos amis de la MEPI et d'Opinion System, ainsi que Hiro pour parler rénovation énergétique. Merci en tout cas. Merci. Le signal est envoyé. Venez à Nancy. Vous allez voir, c'est une ville magnifique. Merci Mathieu Klein.
Merci.
Les clés de la ville, parlons bien.
Cette fois-ci avec notre partenaire de la MEPI pour la séquence Parlons bien. On va parler de l'immobilier neuf. On va parler de l'immobilier ancien, le bâti ancien, comment se porte le marché. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Grégory Laurent. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Voilà, merci. Parlez bien dans l'axe du micro. Merci, vous êtes le patron de l'agence RIMAX et vous êtes trésorier à l'AMEPI, fichier AMEPI national.
C'est exactement ça.
Alors oui, Olivier. On va évoquer évidemment cet immobilier ancien, faire avec vous un tour d'horizon du marché de l'ancien. Peut-être trois chiffres clés pour débuter. Le premier, c'est 2600. Comme 2600 euros, prix moyen au mètre carré d'un bien immobilier à Nancy, avec évidemment, bien sûr, de fortes disparités entre, par exemple, le quartier Stanislas et celui de Bourgard. Il y a des écarts de prix importants, mais ça donne quand même une tendance. Deuxième chiffre, c'est 9. Comme 9%, la hausse de prix dans l'ancien sur un an, signe pour certains de difficultés à suivre. Pas évident, et pour d'autres, au contraire, de dire c'est l'attractivité de la ville. Et puis le troisième chiffre clé, c'est 49. Comme 49 jours, c'est le délai de vente moyen d'un bien immobilier à Nancy, moins de 2 mois. C'est un signe de fluidité des transactions. C'était encore mieux, à 45 jours en juillet 2021. C'était un record l'année dernière. C'est un peu remonté, mais on est loin de 2017, où on était à 70 jours en moyenne de délai de vente. Donc, on vend, on achète des appartements, des logements, des maisons à Nancy. Est-ce que vous ressentez actuellement, comme certains nous le disent, dans un contexte qui n'est pas évident, d'incertitude économique, géopolitique, est-ce que vous sentez dans l'ancien un ralentissement de l'activité depuis, on va dire, 2 mois ?
Alors actuellement, effectivement, on a un marché qui est assez florissant. Les délais de vente ont bien diminué. On a effectivement une augmentation en pourcentage des prix de vente. Cependant, on a des biens qui se raréfient, on a des taux qui commencent à augmenter, et de ce fait, c'est en train de se ralentir un tout petit peu entre ce que les gens sont en capacité d'emprunter et par rapport à l'offre du marché actuel. Moi, je remarque, ça fait 18 ans que je suis l'immobilier, j'ai acheté mon premier appartement il y a quelques années en arrière, et pour 100 000 euros sur Saint-Max, on pouvait avoir 80 mètres carrés, et aujourd'hui, pour 100 000 euros, on peut avoir 50 mètres carrés. Donc il y a vraiment cette grosse différence, et du coup, on a une population qui commence à avoir des difficultés à trouver un bien, surtout pour les primo-accédants.
Quels sont les types de biens les plus recherchés à Nancy, pour donner une idée pour ceux qui ne connaîtraient pas bien?
On aurait tendance à croire effectivement qu'avec la population étudiante, c'est surtout les petites surfaces les plus prisées.
On a les petites surfaces qui sont prisées effectivement, mais plutôt pour des investisseurs, oui, ou pour des bons pères de famille qui vont dire tiens, j'investis parce que ma fille va faire médecine justement, comme on a une belle fac de médecine à Nancy. Et du coup, ces investisseurs-là qui viennent de Paris, qui viennent dans d'autres métropoles, vont mettre plus cher que des locaux, on va dire. Et du coup, ces prix augmentent. Et puis, pour les appartements, on va dire T2, T3, T4, c'est plutôt des familles, effectivement, et pas forcément des investisseurs qui vont acheter ce type de surface.
Pour avoir une idée, avec un budget de 200 000 euros, qu'est-ce qui est recherché? C'est plutôt l'appartement à Nancy, plutôt en périphérie, la maison avec le jardin, ou quels sont les types de demandes que vous avez?
Alors, aujourd'hui, 200 000 euros, même pour avoir une maison en périphérie de Nancy, ça devient un petit peu compliqué. On va avoir plutôt des surfaces.
250 000.
Ouais. Voilà, c'est ça. 80 000 euros, on va plutôt avoir des surfaces de 80, 90 mètres carrés avec jardin. Et sur Nancy, on va avoir des T3, 70, 72 mètres carrés. Je rebondis un petit peu sur votre constatation du prix de l'immobilier. Aujourd'hui, des appartements anciens qui sont très bien rénovés et customisés, comme j'appelle ça, donc très bien décorés avec du beau mobilier,
ça
on va
bien,
atteindre des prix hors terrasse, hors jardin, donc sans extérieur, on va atteindre des prix de 3000 euros. Avec des délais de vente assez réduits.
Donc on voit bien qu'il y a une attraction, en fait, finalement, à la fois parce qu'il y a un patrimoine intramuros qui est de très bonne qualité, lorsque c'est rénové. Est-ce que, par exemple, justement, les baux, on a vu avec le bail mobilité, on a vu avec l'effet Airbnb qui s'est rabattu sur les meublés, sur le bail meublé, est-ce que sur des petites surfaces, studio T1, T2, on voit ce type de phénomène se développer? Est-ce que la proposition de location des petites surfaces, c'est surtout des baux meublés plutôt que des baux vides?
Alors, effectivement, c'est de beaucoup des baux meublés parce que, premièrement, pour les investisseurs...
Fiscalement, c'est intéressant.
On loue plus cher.
Oui. Et on n'est pas sur une durée de bail qui nous enferme sur 3 ans plutôt que sur 1 an pour le bail meublé.
Vous avez tout dit. Alors non, c'est exactement ça.
Mais justement, pour qu'on sache à peu près, pour les investisseurs et ceux qui nous écoutent, c'est quoi le pourcentage? Si on prend une base 100 de petite surface, c'est quoi? Moitié meublé, moitié vide, ou comment c'est, selon vos estimations?
Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on est à peu près 50-50.
Ah oui, quand même.
Parce que en fait, comme Nancy est une ville étudiante, on a beaucoup d'étudiants qui restent des fois 9 mois, qui partent. Et de plus en plus, nos clients investisseurs, pour éviter les vacances locatives, vont louer d'une façon intermédiaire en Airbnb pendant le mois de juillet ou le mois d'août, afin d'augmenter un petit peu leur rentabilité, etc. Du coup, ce qui provoque aussi finalement un effet de rareté pour les personnes qui veulent s'installer et qui ont les moyens d'acheter un appartement, parce que le prix va augmenter, car une rentabilité pour un Airbnb ou un meublé va augmenter. Donc, nos clients sont prêts à mettre plus cher pour un appartement qui va être meublé sur Nancy.
Alors, on va parler des taux de rentabilité, si vous voulez bien. Le taux de rentabilité pour un investisseur dans l'ancien, c'est quoi en moyenne?
Alors,
moins de plus de 5% ou moins de 5%?
Sur Nancy, ça dépend encore une fois de la localisation.
Oui, si on fait une moyenne.
Mais on va être entre 5 et 6% en rentabilité brut. Alors, on dit quand même, mais on diminue de plus en plus ce taux de rentabilité. Lorsque j'ai commencé ce métier-là, on n'investissait pas sur Nancy en dessous de 10%.
Ah oui, quand même.
Ah oui. Ah, je vous parle de ça. Okay.
Et les valeurs locatives, on est plutôt à quoi? Entre 10 et 12 euros du mètre carré en moyenne sur la ville?
Encore une fois, ça dépend.
En moyenne, oui.
On est à peu près à 12 euros. Moi, je loue des appartements où on a 15 euros parce que la surface est un peu plus petite, c'est meublé.
Bien sûr.
Donc, c'est pareil, c'est une question d'aménagement.
Bien sûr. De quartier aussi, bien évidemment.
De quartier.
Là, on est dans un quartier très emblématique. Ici, on loue plutôt aux alentours des 10-15 euros.
Aujourd'hui, sur des quartiers un peu thermales, comme on voyait tout à l'heure, je loue des F3 meublés de 50 mètres carrés à 700 euros.
D'accord.
Alors justement, vous, Grégory Laurent, qui connaissez bien le marché à Nancy, avec votre expérience, quels sont, pour donner envie aussi à des investisseurs, à des gens, quels sont les secteurs porteurs, quels sont les secteurs à suivre, où est-ce qu'on peut mettre un petit peu d'argent pour investir dans l'immobilier? On a envie d'avoir votre expertise.
Les quartiers émergents, les quartiers qui auront la cote demain ou qui sont en train de se transformer?
Alors, effectivement, pour investir sur Nancy, on va se rapprocher de tout ce qui est pôle universitaire. On va commencer à se rapprocher effectivement de Vendeuvre parce qu'il y a le pôle CHU de Nancy qui va remonter et on a beaucoup d'universités comme la fac de sciences, la fac de sport. Donc il y a forcément ce pôle-là qui est intéressant. Ensuite, on a forcément tout ce qui est Nancy Gare parce que les étudiants aujourd'hui ne se déplacent plus en véhicule. Avec ce phénomène-là, ils vont rester sur Nancy Centre et ils vont louer relativement cher.
Alors, dernière question sur l'offre, notamment, tout à l'heure. En écoutant Philippe Jung pour le Neuf et le maire de Nancy, on a l'impression qu'on est sur un relatif équilibre de l'offre, alors que tous vos collègues dans d'autres régions peinent effectivement à avoir des produits en vitrine et à des produits à la location. Est-ce qu'il y a une tension ici sur les mandats de vente? Est-ce qu'il y a une tension sur les offres à la location? Parce qu'on a l'impression, quand on écoute, je ne sais pas si Olivier, vous partagez la même idée, on a eu l'impression d'un équilibre finalement. Est-ce que vous confirmez ça? Ou est-ce que, comme vos collègues dans d'autres villes, on est vraiment sur un problème de stock de produits?
On est clairement sur un problème de stock de produits actuellement. On rentre un bien. Il se vend, mais en fait, c'est surtout ce qui est important à signaler. C'est que les biens aujourd'hui se vendent parce qu'il y a des professionnels qui font des belles estimations et qui vont mettre en face des moyens de communication avec aujourd'hui des moyens digitaux comme des visites virtuelles, par exemple, ou des photos HDR faites par des professionnels.
Le principe de la MEPI qui permet de partager aussi les mandats.
On a le principe effectivement de la MEPI. Donc aujourd'hui, on dit à nos clients qu'au lieu de confier votre bien à différentes agences, vous le confiez à nous. Par exemple, sur la MEPI Nancy, on est à peu près 25 agences, 150 collaborateurs, 150 agents immobiliers en tout, et puis à peu près en moyenne 200 biens exclusifs partagés.
Ah oui, c'est de loin le plus fort taux. Alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Est-ce que, ça c'est la dernière question que je vais vous poser par rapport aux biens, parce qu'on va parler tout à l'heure de rénovation énergétique avec Romain Villain, est-ce que, vous avez vu le calendrier 2023, 2025, jusqu'à 2034, sur les 7 lettres énergétiques, la lettre F et G, on va dire 4 800 000 logements vont disparaître s'ils ne sont pas rénovés. Mmh. Et on va aller même jusqu'à la lettre E. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, si on devait donner, comme le disait tout à l'heure Olivier Marin, un conseil à ceux qui nous écoutent sur l'investissement, on a vu que c'est encore bankable hein, d'investir à Nancy, mmh. ça c'est très clair. Justement, sur la rénovation énergétique, quand vous prenez les mandats, est-ce que vous sentez que les clients sont de plus attentifs à la lettre énergétique? Parce qu'il y a eu beaucoup de communication fait ces derniers temps et on a un calendrier très strict.
C'est une évidence qu'aujourd'hui, ces mesures font peur parce qu'on ne sait pas finalement à quelle sauce on va être mangé. J'ai vendu récemment un appartement à Nancy sur un très beau secteur. Le DPE est en F.
Ah oui.
Donc voilà, mais on se pose la question de comment finalement on va pouvoir isoler cet appartement. La façade est une façade art déco, elle est classée.
Ouais,
l'intérieur, il y a des boiseries, il y a 3 mètres de plafond, donc comment on va faire? Donc est-ce que ces appartements-là, ils vont être bons au rebut? Est-ce que demain, ils vont perdre de la valeur? Ou est-ce que, un petit peu comme la loi handicap, il y aura à un moment donné
des exceptions
oui. qui seront données en disant bah, cet appartement-là, on va bloquer le loyer, etc. etc. Mais c'est vrai que ça met un ralentissement pour les biens qui sont dans ces notes-là. Et ça fait peur aussi aux investisseurs en disant, mais finalement, Nancy, on est sur une ville historique avec des appartements qui sont construits dans les années 30, 40, 50 dans les vieux cœurs, donc des DPE qui ne sont pas forcément très bons. Et je discutais la dernière fois justement avec un diagnostiqueur et il me disait, tu sais, pour passer de la note G à la note D, tu sais ce qu'il faut? Je dis non, écoute, dans mon logiciel, si on met 4 cm d'isolation, on passe en D.
D'accord. C'est pas si extra. Alors justement, vous avez évoqué un sujet important, on en parlera bien évidemment, c'est la rénovation par l'extérieur ou par l'intérieur sur du patrimoine classé. Mais ce que je voudrais compléter ma question, quand vous avez des clients qui vous demandent des appartements, est-ce qu'aujourd'hui, sur 10, ils sont vraiment attentifs majoritairement à la lettre énergétique, beaucoup plus qu'ils ne l'étaient il y a quelques
années? Sur la valeur verte des logements.
Voilà.
Ah bah de plus Système. En plus. Hein,
tous nos 8 fois sur 10.
Alors, j'ai pas de statistiques
une grande majorité.
Comme ça, mais une grande majorité.
C'est normal, t'as pas envie de t'engager non plus dans des travaux derrière quand t'achètes un bien. C'est
oui, et on le voit bien parce que ce fameux appartement que j'ai vendu, on a eu la note, on l'a diffusé, on n'avait pas encore le diagnostic.
Bien sûr.
On était entre deux parce qu'on avait l'ancien diagnostic, si vous voulez, donc on pouvait diffuser parce qu'on avait un diagnostic qui était vierge. Et pour vendre quelque chose de responsable de mon côté, j'ai préféré refaire le diagnostic. On s'est trouvé donc avec cette fameuse note négative, mais on a eu un peu les surenchères, on a eu des clients qui étaient relativement intéressés, ils sont déplacés, ils ont quand même acheté. Mmh. Je mets le même appartement sur Nancy, le même type d'appartement, mais cette fois-ci, on a affiché le diagnostic parce qu'on avait le bon diagnostic.
Bien sûr.
J'ai réduit mon taux d'appel par 3 ou par 4.
Bah voilà. Voilà.
C'est la démonstration.
C'est la démonstration. Très précise et professionnelle de l'immobilier. Merci beaucoup. Applaudissements pour Grégory
Merci.
Laurent. Patron de RE/MAX et représentant de la MEPI ici.
Les clés de la ville, bien mieux avec Hiro.
On va parler de rénovation énergétique parce qu'effectivement, qui parle de patrimoine peut parler aussi de rénovation énergétique. On l'a vu d'ailleurs que les difficultés de rénovation par l'intérieur ou par l'extérieur sur un patrimoine art déco ou classé, c'est une vraie galère, à Paris notamment et dans les grandes villes. C'est le cas aussi ici à Nancy. On continue avec vous, Romain. Société Hiro, c'est une société qui aide les particuliers, qui aide les particuliers à financer leurs travaux de rénovation énergétique, estimation et déclaration des primes énergie, ainsi que ma prime rénove. J'aimerais que vous repreniez, juste pour qu'on enfonce bien le clou, c'est ce qu'on fait à chaque fois d'ailleurs dans nos émissions, on a un calendrier très strict, on va nous rappeler les grandes dates.
Oui, bonjour à tous. Le calendrier est effectivement bien rempli avec des échéances très proches. La prochaine, c'est en août 2022, où là démarre le gel des loyers des logements en étiquette F et G. Ensuite, on enchaîne en septembre 2022 avec l'obligation de réaliser un audit énergétique pour vendre justement ces logements en étiquette F et G. Et puis à partir de janvier 2023 démarre l'interdiction progressive de louer les logements passoires énergétiques. Donc en janvier 2023, c'est les G les plus consommateurs, supérieurs à 450 kWh par mètre carré. Et ensuite, l'ensemble des G en 2025, les F en 2028 et les E en 2034.
Alors, on va parler de notre bonne vieille ville de Nancy. Chaque mois, vous nous donnez les éléments chiffrés de la ville. C'est quoi les caractéristiques de Nancy?
Alors déjà, le parc de logements, on a 70 000 logements. 84% de résidences principales. On l'a dit, une très grande majorité d'appartements. On a 89% d'appartements. Et à titre de comparaison, le mois dernier, on était à La Rochelle, on était à seulement 67% d'appartements.
Ah d'accord, ok.
Et 78% de locataires parmi les résidences principales. Donc ça, c'est, ouais, c'est effectivement
donc
beaucoup.
Donc c'est vraiment majoritairement un marché de locataires.
Locataires et appartements. Alors, et un taux d'artificialisation qui est aussi très important, on a 97%, donc un développement qui se veut peu de foncier, donc un développement qui se veut plutôt vertical.
Alors en termes de climat, c'est assez, tempéré de façon assez radicale, hein, très chaud ou très froid, si je peux dire les choses comme
donc
ça.
On a une grande amplitude thermique.
Ouais, avec des amplitudes thermiques importantes, donc nécessité d'avoir à la fois les matériaux qui résistent, mais aussi la rénovation. Question, que fait la ville de Nancy en matière de rénovation énergétique?
Alors, depuis plusieurs années déjà, Nancy est plutôt engagée dans cette cause. La métropole du Grand Nancy semble œuvrer vers la transition énergétique du résidentiel privé. Voilà, c'est clairement inscrit dans son SCOT depuis 2013. Et sur en ligne, la ville de Nancy met à disposition des habitants un site primeenergie.grandnancy.eu où on y trouve tous les conseils pour faire les bons choix lorsqu'on a un projet de travaux de rénovation énergétique et qui aussi communique quelques chiffres clés qui sont intéressants. J'y ai notamment noté la communication de fourchette des montants d'aide en euros selon les travaux, et ça je trouvais l'initiative plutôt bonne. Et sinon, en termes d'aide, les habitants du Grand Nancy sont incités particulièrement à changer leur chaudière. Installer une chaudière biomasse ou une pompe à chaleur
ils
sont aidés, il y a un coup de pouce jusqu'à 4000 euros.
Jusqu'à 4000 euros. Alors justement, on parlait de DPE. Comment ça se situe, Nancy, en termes de DPE, des diagnostics de performance énergétique?
Alors, on en a relevé 16 000 des DPE réalisés à Nancy depuis 2013, 35 000 à l'échelle du Grand Nancy. On a des profils dans les appartements anciens, on a des profils de DPE plutôt mauvais. Faut le dire, avec une majorité de E. Et on a 18% des appartements anciens qui sont considérés comme des passoires énergétiques, donc F et G, alors qu'on a une moyenne française qui est à 15%.
Oui,
quand on regarde...
Oui, on voit que le patrimoine est beau à Nancy, ouais, mais il est mal isolé, quoi.
Exactement. Et quand on regarde les maisons, là on a une nette majorité de D, donc on a un profil un peu meilleur que les appartements anciens. D'ailleurs, on est à 14% de passoires énergétiques sur les maisons, alors que la moyenne française est à 18%.
Comme chaque mois, on vous donne, les amis, les clés de lisibilité sur les aides. Et vous nous préparez chaque mois un cas réel, hein. Vous prenez un cas réel sur Nancy.
C'est une vraie maison.
Et vous avez pris un cas, vous avez pris une maison que vous avez checkée. Un exemple de
photo.
Rénovation.
Street
de rénovation ici à Nancy. Donnez-nous les exemples, on le verra à la caméra.
Donc là, il s'agit d'une maison, on est au nord-ouest de Nancy, rue Eugène Corbin, qui une maison de 110 mètres carrés, 320 mètres carrés de jardin, 3 chambres, classée F, et qui s'est vendue en juin 2020, 230 000 euros net vendeur. On va considérer que cette maison, elle a été achetée par un couple avec des revenus de référence dans la moyenne du secteur. Et on a tenté d'estimer quelles devaient être, à partir des recommandations aussi formulées dans le DPE, quels devaient être les travaux à réaliser. Et
pour passer d'une étiquette
F à D.
AD. D'accord.
Et donc, pour améliorer cette performance énergétique permettant de passer de F à D, on estime les travaux à une enveloppe de 40 000 euros. Avec cette enveloppe, ça va permettre d'installer une VMC double flux, ventilation, d'isoler les murs par l'extérieur, parce que dans le quartier, on peut le faire.
Oui.
D'isoler les combles perdus, changer les radiateurs et d'installer une porte isolante. Voilà, les autres ouvertures étant a priori déjà changées.
Sur un coût de...
Donc on est sur un coût total de 40 000 euros.
Oui.
Et le ménage peut bénéficier jusqu'à 16 000 euros d'aide, 2 000 euros de certificat d'économie d'énergie et 14 000 euros de ma prime Rénov. Donc ça fait un reste à charge
de 24 000
qui s'élève voilà, de 24 000 euros.
Voilà. Et donc si ces 24 000 euros sont déboursés en complément des primes,
ouais.
Quelle est la valeur verte de cette maison qui était vendue 230 000 euros?
Déjà, on estime qu'avec cette étiquette F, la maison elle a une décote de sa valeur de 11%
par rapport au prix pratiqué.
Voilà, par rapport au prix pratiqué dans le quartier. Et en 2022, on a réestimé cette maison, on serait à 253 000 euros. Donc déjà, juste l'effet inflation, on serait à plus 10% en 2 ans dans ce quartier. Et une fois les travaux réalisés, on l'estime à 288 000 euros. Donc les travaux ont coûté 24 000 euros réellement. Et le gain est de 34 000 euros en 2 ans avec l'effet à la fois inflation et l'effet travaux. Donc ce qui fait au total plus 15% en 2 ans.
C'est sans appel. La solution, c'est la rénovation. Merci beaucoup, Romain Villain. Je rappelle que vous êtes le directeur marketing de Hiro. Hiro, la plateforme qui vous permet aussi d'évaluer et de collecter l'ensemble des éléments pour financer la rénovation énergétique. Applaudissements pour Romain Villain. Voilà, il est l'heure de retrouver notre dernière séquence.
Les clés de la ville. Vos avis comptent avec Opinion System.
Vos avis comptent, bien évidemment, prendre le pouls et le moral des Français, c'est important. D'ailleurs, je le dis à chaque fois, mais je le rappelle quand même, pendant très longtemps, on avait des avis vérifiés quand vous allez au restaurant, vous allez sur Google, vous avez les avis. Et en fait, très tardivement, on a vérifié la e-réputation, entre guillemets, pour l'immobilier, alors que c'est l'achat d'une vie. C'est un paradoxe, mais souvent, c'est un sujet important. C'est d'autant plus important que mesurer la capacité ou l'excellence professionnelle à travers des avis, je le rappelle, vérifiés avec des organismes comme Opinion System, qui est le leader sur l'immobilier, c'est un sujet important. Pour en parler, on a Michael Butt qui est avec nous. On dit Butt ou Butt ?
Butt, ce sera très bien.
Voilà, Butt. Alors, justement, vous êtes directrice des agences Butt.
Directeur,
ouais. Agence...
Directeur.
Directeur.
C'est pas une directrice. C'est pas...
C'est bien, parfait.
Excusez-moi, le monde évolue vite. Là, on
j'ai aucun problème avec ça.
Le monde évolue vite, comme tu dis. Non, pardonnez-moi. Directeur des agences, donc, Croisi Immobilier à Nancy. Vous êtes aussi installé à Épinal.
Et à Toul également.
Ouais, et à Toul.
On a une agence à Nancy, Toul et Épinal.
Absolument. Alors, moi, la première question que je vais vous poser, c'est... comment est le marché immobilier de la région de Nancy? Est-ce que pour vous, il est assez dynamique? Et justement, lié à cette réputation, quelle est votre approche, j'allais dire quasi philosophique, de votre métier que vous pratiquez?
Écoutez, le marché nancyen, déjà, pour le coup, il est dynamique. Alors, sortie de Covid, je pense qu'il a été dynamique pour tout le monde dans toute la France. Aujourd'hui, là, à l'instant T, je pense qu'on passe quand même un tournant.
Un tassement.
Ça commence, ouais. Je pense qu'on est en plein dans le virage où là, on va avoir un ralentissement du fait.
C'est un retour à la normale ou c'est un effondrement?
Ça s'agit, en fait. C'est, oui, ouais, ça devient plus sage, donc ça redevient normal. Et je pense qu'on va retravailler comme on a toujours travaillé avant Covid. Donc le marché va retrouver effectivement son avant Covid.
Ça veut dire aussi peut-être des vendeurs plus raisonnables qui se rendent compte qu'entre l'évolution des taux de crédit, je ne vais pas dire qu'on faisait n'importe quoi là-dessus, mais qu'il y avait des prétentions qui étaient peut-être un petit peu exagérées.
Il y a des acheteurs qui sont plus exigeants aussi. Il y a un peu moins d'acheteurs. Est-ce qu'il y a un peu moins d'acheteurs?
Il y a un retour un peu à la normale, un assagissement, vous le sentez ou pas?
Alors, pas encore. Il va falloir que les vendeurs en prennent conscience, déjà dans un premier temps, parce que les vendeurs sont toujours, eux, dans la dynamique, dans le fait qu'il y ait plus de demandes que d'offres. Et effectivement, on a connu de grosses, grosses demandes et on y est encore un petit peu. Mais les conditions bancaires, plus la baisse du pouvoir d'achat de aussi bien des anciens que des Français, va faire que les capacités d'emprunt vont être quand même moindres. Par exemple, je discutais avec un partenaire financier, c'était hier, pas plus tard qu'hier, un couple de jeunes actifs qui gagnent 4 000 euros par mois avait une enveloppe de 310 000 euros il y a 2 mois de ça. Mmh. Ils ont refait donc la même étude. Aujourd'hui, ils perdent 25 000 euros sur leur enveloppe d'emprunt. Donc forcément, ça va se ressentir. Et les vendeurs, c'est plus une prise de conscience de se dire l'euphorie est terminée et on était dans un marché qui était quand même hors marché. Et là, on redevient effectivement à quelque chose de plus... plus sage.
Alors, la réputation des agents immobiliers est un sujet important. La formation et l'expertise des agents immobiliers est important à l'heure où les modes de distribution sont en train d'évoluer. Justement, est-ce que pour vous, professionnels, les avis clients, c'est une force pour votre métier et quelle valeur vous y accordez ?
Ah ben, les avis clients, d'autant plus pour nous qui sommes une agence quand même indépendante. Donc forcément, nous, on mise beaucoup là-dessus. C'est un peu notre TripAdvisor. Donc effectivement, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, on est un des métiers où les avis clients se sont mis en place assez tardivement. Là, aujourd'hui, avec Opinion System, on a pu développer... notre notoriété locale d'être connue, on l'a travaillé nous-mêmes par notre communication et notre expérience. Mais le fait d'être reconnu en tant que professionnel de l'immobilier, c'est grâce aux avis. La première chose que vous allez faire avant d'aller manger dans un restaurant,
très juste.
Bah, c'est d'aller consulter les avis.
Un hôtel, un restaurant.
Et de voir effectivement l'humain qui se cache derrière.
Est-ce que les clients, ils vous le disent quand ils viennent chez vous ? J'ai vu, vous aviez des avis.
Et nous, on a énormément de recommandations grâce à nos avis.
Je viens par recommandation.
Oui.
Ça compte énormément.
C'est pour nous une belle entrée de prospects.
Quand vous voyez par exemple qu'il y a une étude qui a été publiée pour Opinion System par l'IFOP, l'Institut de sondage, qui dit que 8 particuliers sur 10 interrogés recherchent systématiquement des avis clients avant d'acheter un produit. Aujourd'hui, question, par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années, aujourd'hui il n'y a plus de débat, c'est un acte professionnel.
C'est un acte professionnel.
De mesurer sa réputation.
C'est un acte professionnel et surtout humain.
C'est surtout, dans quel sens, quand vous dites humain ?
Humain, dans le sens où c'est une relation de confiance. C'est un projet de vie, donc forcément, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un accompagnement. Et on aime bien, forcément, en tout qu'être humain, tout être humain aime savoir déjà d'avance à qui il aura affaire. Et la meilleure passerelle justement pour ça, c'est les avis. Et aujourd'hui, on est dans un monde où les avis comptent énormément pour, je pense, beaucoup de professions.
Alors, dernière question pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous conseilleriez, quels sont les 3 conseils que vous donneriez à des acheteurs, des investisseurs qui viendraient ici à Nancy, vous qui êtes attentif à la réputation des professionnels de l'immobilier ?
D'aller consulter nos avis.
Donc on va mettre l'URL de vos agents.
Vous pouvez,
le mieux, c'est de passer directement par vous.
Exactement. Voilà. Non, après, pour passer pour tout professionnel de l'immobilier, mais
bien sûr.
Oui.
Non, mais on peut dire expertise, formation et accompagnement.
Ah bah oui, complètement. Bien sûr.
On voit bien que la relation client dans l'accompagnement est importante. Et ce que je constate, et j'aimerais avoir votre avis, c'est que on a l'impression que les agents immobiliers qui avaient pléthore d'acquéreurs, etc. Aujourd'hui, comme les acquéreurs se font un peu plus rares, on redécouvre les vertus de la découverte acquéreur. Est-ce que vous confirmez ?
Alors, c'est plus dans le sens où il y a pléthore d'acquéreurs, où ça se vendait assez facilement, où l'agent immobilier, je ne parle pas de nous évidemment, mettez de côté effectivement les découvertes acquéreurs parce que concrètement,
parce que
tout se vendait et c'était un gros travail de faire la découverte de tous les acquéreurs qui nous consultaient. Alors aujourd'hui, nous, notre force, c'est vraiment de consulter tous les acquéreurs et de découvrir tous les projets.
Et c'est ça qui est porteur finalement, parce que tout ça, ça génère de la relation
pour
le futur.
Clairement, oui, c'est plus de travail, mais par contre, ça génère énormément de retombées positives.
C'est là que vos avis comptent pour Opinion System. Merci, Michael Butte. Je rappelle que vous êtes à la tête de vos propres agences sur Toul, Épinal et Nancy. Merci en tout cas d'être passé. Applaudissements.
Merci.
Pour Michael. Et voilà, nous abordons la fin. Restez avec nous. On aborde la fin de notre émission. C'est fini aujourd'hui à Nancy. Le mois prochain, où nous sommes, Olivier ?
Alors, prochaines étapes. Bah, merci en tout cas d'avoir participé à l'émission ici à l'Hôtel de Ville et ses super accueils. En tout cas, prochaines étapes. Bah, il en reste 2 dans la saison 2 des Clés de la Ville. En juin, alors la date précise, on est en pleine négociation, mais nous serons à Clermont-Ferrand. Et puis en juillet, on sait que ce sera le 1er juillet, nous serons dans le Val d'Oise. Ce sera les maillots de bain qui
Absolument.
Sont prévus pour la ville d'Enghien-les-Bains. Et ce sera donc le 1er juillet prochain.
Voilà, à la veille de l'été. Le journal, bien sûr, Le Figaro sera publié avec la synthèse de nos échanges. La plateforme de Radio Immo, comme d'habitude, vous retrouvez le podcast, le replay, commenter, liker avec beaucoup de bienveillance toujours. On est ravis de partager ce Tour de France avec vous. On va continuer nos pérégrinations. Merci à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, venez investir ici à Nancy. Ciao.
Les Clés de la Ville, une émission produite par Radio Immo et Le Figaro Immobilier.